Le bouillon de volaille. Le principe, c'est de faire un bouillon dans lequel on va faire transférer tous les éléments aromatiques de notre carcasse.
C'était des cantines, c'était pour nourrir les gens qui eux-mêmes n'avaient pas les moyens de s'offrir de la viande chez eux pour une somme ridicule.
Le bouillon de légumes est un incontournable de la cuisine qui va vous servir aussi bien de base de cuisson que de fond aromatique pour cuire des pâtes, du riz par exemple ou un risotto ou pour cuire d'autres légumes.
Le concept des bouillons, d'avoir des bons plats très rapidement avec des prix abordables, c'est très français et c'est pour ça que j'aime la France.
Bonjour à toutes et tous, ça bouillonne aujourd'hui sur le plateau dont on va déguster et vous êtes les bienvenus pour plonger avec nous dans cette potion quintessentielle, ce plat mijoté en version liquide, car le bouillon est un peu à la cuisine ce que le solfège est à la musique, autant dire la base, le fondement. Il peut être un outil culinaire, une méthode de cuisson, mais aussi un plat complet et même une super stratégie anti-gaspi. C'est ce qu'on va voir avec celle qui a pour nouvelle obsession le bouillon. C'est Keda Black, bonjour.
Bonjour.
On est ravis de vous retrouver. Vous passez régulièrement au micro d'On va déguster, cher Keda, pour nous parler de sujets divers et variés au gré de votre production éditoriale. Et là, le dernier livre, c'est Bouillon gourmand, votre nouveau livre de recettes que vous avez signé chez Marabout, avec ce sous-titre, des recettes de base au plat complet, concoctez-vous des dîners chauds bouillants. Précisons que les photos ont été signées David Japy, très beau stylisme aussi de Sabrina Fodarol, hein, c'est ça?
C'est ça.
Belle équipe, beau trio pour un livre qui vraiment en jette. Et on va prendre le bouillon avec vous. Alors évidemment, il est un peu facile, hein, le jeu de mots, mais c'est surtout les recettes que vous allez nous proposer qui sont faciles. Et c'est déjà d'ailleurs en train de mijoter sur la plaque de cuisson installée dans notre studio, ce qui explique qu'il y a un petit bruit de ventilateur à côté de vous.
C'est ça.
C'est en train de bouillonner. Le bouillon est une préparation, une technique culinaire, mais on va voir qu'il fut aussi un lieu. Et ça, on va le voir avec notre historien dans la bande dont on va déguster, c'est Loïc Bienassi. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur, rappelons-le, à l'Institut européen d'histoire et des cultures de l'alimentation à l'Université de Tours. Ce sigle est imprononçable, IEHCA.
Parfait, voilà. C'est prononçable.
Et vous allez nous raconter la folle histoire des...
Bouillon restaurant.
C'est ça, les bouillons restaurants. À mes côtés tout au long de cette heure, passez ensemble jusqu'à midi. On est ravis de retrouver notre chroniqueuse reportrice Zazie Tavissian et notre chroniqueur vin Antoine Gerbel. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Zazie.
Moi, je vais vous parler aujourd'hui d'une petite pâte fermentée qui donne du goût au bouillon.
Moi, j'ai ma petite idée. Il va falloir voyager un peu, je crois. Antoine.
Dans la palette des vins français, vais-je trouver le vin juste pour accorder avec nos bouillons?
Sachant que dans votre question, il y a le nom d'une appellation viticole. On n'en dit pas plus. Si vous voulez mettre votre grain de sel dans cette émission, envoyez-nous vos remarques ou vos questions sur notre mail. On va déguster à radiofrance.com ou bien cliquer sur le bouton réagir depuis l'appli mobile de France Inter. Tous les contenus dont on va déguster, nos coups de cœur, nos recettes, nos podcasts sont à retrouver sur franceinter.fr à la page On va déguster.
France Inter, on va déguster avec François-Régis Gaudry.
Les amis, juste avant de prendre le bouillon, on prend le train pour Lille. Oui, je sais, Lille est un peu une de mes marotte du moment, mais il faut dire que la scène gastronomique lilloise est en pleine ébullition en ce moment. On attendait notamment avec impatience l'installation d'un jeune talent local qui déborde d'inspiration et de conviction, Damien Laforce. Ça vous dit quelque chose?
Oui.
Zazie?
Ah, je l'ai vu dans Top Chef, évidemment.
Oui, pas mal, effectivement. Alors, il est allé assez loin hein, dans la compétition, c'était la saison 10, Top Chef.
Il est très sympathique.
Ouais, un garçon très sympa et très talentueux, à 26 ans. Que 26 ans, Damien Laforce ouvre son restaurant à Lille, à l'ombre de la cathédrale Notre-Dame de la Traille. Je m'y suis attablé il y a quelques jours et je me suis même glissé dans la cuisine en plein coup de feu.
On est au Brac, 45 rue de la Monnaie, en plein cœur du vieux Lille.
C'est pas au Brac comme la région, c'est le Brac, c'est ça?
C'est le Brac, c'est ça, en référence au chien. Toujours au restaurant, couché à sa place. C'est un peu la mascotte, quoi. C'est mon partenaire de cueillette, de chasse et puis d'aventure, quoi. Alors le restaurant, on l'a pensé en mode comptoir. Donc on a 28 couverts en manche debout et on a 25 couverts en table assise. Les manches debout, on les veut non réservables. Mais les gens sont assis sur tabouret. Voilà, nous on propose une cuisine forcément de saison, régionale. On bosse avec les gens du coin, les gens qui bossent bien. On propose tout ce qui est durable. Donc ça passe par les maraîchers, ça passe par les cueillettes, ça passe par les éleveurs, ça passe aussi par la pêche. Parce que toutes ces choses-là peuvent être durables, tout comme la chasse, tant que c'est fait intelligemment. Alors là, c'est un peu le produit phare de la maison. On a d'excellents retours dessus. C'est un riz de veau qu'on a poché dans le lait tout doucement. Et derrière, on le fait frire avec une chapelure dans laquelle on a mis du thym, de l'origan, tout ça. On le découpe comme ça, on le sert avec une sauce vierge. Des premières tomates qui viennent d'Envelin, d'un copain, maraîcher, donc c'est dans la région. Ça l'accompagne d'une gribiche au salicorne. Des salicornes qui viennent de Waplage, donc de notre côte. Voilà.
Ah là là, les nuggets de riz de veau par Damien Laforge, je peux vous assurer que c'était quelque chose. Hein. À la fois tradi et un peu junkie. Voilà, et c'était vraiment voilà la cuisine moderne, mais qui a en même temps de vraies belles racines. La cuisine moderne de Damien Laforce, restaurant Le Brac. Vous avez donc compris que Le Brac, c'est Le Brac de Weimar, prénommé d'ailleurs Marcel, qui vient chercher des caresses auprès de tous les clients. Il est là, hein. Donc si on n'aime pas les chiens, c'est vrai qu'il vaut mieux pas aller au Brac. Et c'est aussi l'emblème de cette cuisine buissonnière, saisonnière, très tournée vers les ressources locales et notamment les produits sauvages de la cueillette et de la chasse. Et je garde aussi un souvenir enchanté de son remarquable pâté en croûte et de son pitivier de pigeonneau des Flandres, lustré d'un jus vraiment incroyable, un jus bien sirupeux, très profond, très sombre. C'était vraiment de la belle ouvrage. J'ai envie de dire que la force soit avec vous. Allez, j'ai osé, voilà, Damien Laforce, mais aussi Marie Dupire, qui fait un très beau travail en salle. Le Brac, 45-47, rue de la Monnaie à Lille, toutes les infos sur franceinter.fr, à la page On va déguster. Et de Lille, on fait un petit saut à Rennes, où se déroule à partir d'aujourd'hui et jusqu'à samedi prochain, la toute première édition de Goût de Rennes, le festival des cuisines humaines et durables, un événement à la fois éthique et joyeux, organisé par la créatrice culinaire Anne Etor et le journaliste photographe Olivier Marie. Au programme, des dîners à quatre mains dans des lieux décalés, des dégustations avec des producteurs locaux engagés, comme par exemple le producteur d'algues, Jean-Marie Pédroncle, on avait reçu à ce micro, ou encore Hélène Reglin, une super maraîchère à la ferme d'Artaud. Et en guise de bouquet final, il y aura aussi samedi prochain le barbecue géant, un barbecue géant zéro déchet et mobilité douce. Il faut y aller, et ça va se passer au canal Saint-Martin, il faut y aller à pied ou à vélo. Quelques chefs qu'on aime beaucoup participent d'ailleurs au baptême du feu de ce festival rennais. Il y a Julien Marie du restaurant gastronomie Kima, ou encore Sybille Selam et Grégoire Fouché du super bistrot Bercail. Vous y êtes allé chez oui. Bercail?
Deux adresses, Ima et Bercail, incontournable.
Extraordinaire. Et ça bouge à Rennes. On parlait de Lille, mais la capitale de Bretagne aussi est en mouvement, hein, côté gastronomie. Goût de Rennes jusqu'au 9 octobre à Rennes et dans sa région. Il reste encore des places pour certaines dates dans la semaine. Tout le programme et les infos pratiques sont à retrouver sur notre site. Derrière la vitre de la régie, Laurent, Thomas, Julien Dumont, Nadia Chougui, Djoubaka a fait, comme chaque semaine, le choix des disques. Il nous sert sur un plateau Curtis Harding, Can't Hide It. On n'a rien à cacher sur France Inter, surtout en matière de bouillon.
Thank you.
La préparation d'un bouillon consiste à immerger des ingrédients dans de l'eau et de chauffer pour permettre l'extraction du goût des aliments et sa diffusion dans le liquide. Alexandre Dumas, dans son grand dictionnaire de cuisine, vante d'ailleurs l'excellence de nos bouillons. Je cite « La cuisine française doit sa supériorité à l'excellence du bouillon ». Et Dumas présente ce bouillon comme une façon d'extraire ce qu'il appelle l'osmazome, une substance à la puissance gustative particulière qu'on pourrait assimiler à la cinquième saveur décrite par les Japonais, l'umami, ce goût profond et séduisant apporté par des produits comme les champignons, le parmesan, les os de viande. C'est par ces mots, Kéda Black, que commence votre livre de recettes Bouillon, Bouillon gourmand aux éditions Marabout. Donc si je résume un peu votre démarche, le bouillon peut être vu comme une façon de capturer, de concentrer les ingrédients.
C'est ça, puisque le principe consiste à extraire les principes gustatifs et nutritionnels aussi des ingrédients, en les immergeant dans un liquide. Et j'aime bien cette phrase d'Alexandre Dumas, parce qu'au-delà de son chauvinisme... je pense que d'autres nations pourraient prétendre à cette excellence du bouillon. Ça rappelle que c'est plus qu'une recette ou un plat, c'est un principe qui est un pivot de la cuisine. On fait des bouillons à partir de produits, de résidus d'autres préparations, et on utilise le bouillon dans plein d'autres plats, au-delà du plat bouillon dont on a l'idée et qui est plutôt associé à un temps froid.
Et on aime voilà. Ce bouillon parce qu'il est porteur de sapidité, il concentre les saveurs, mais il est vrai qu'il est plutôt universel en termes de cuisine, hein. Brodo pour les Italiens, broth pour les Anglo-Saxons, et pourtant, il est vrai que, même vu de l'étranger, le bouillon garde, Loïc Bienassi, cette connotation française. Est-ce que l'historien est d'accord avec ça ?
Je crois que c'est ce qui vient d'être dit un peu. C'est-à-dire qu'il y a l'idée que c'est le socle de la cuisine française. Et il y a par exemple l'ouvrage qui est un peu l'ouvrage fondateur de la cuisine française moderne, La Varenne, le cuisinier français en 1651. Ça s'ouvre par une recette de bouillon. Parce qu'on explique, il explique qu'à partir de ça, on peut faire les entremets, les potages, etc. Et on retrouve ça un siècle plus tard dans un autre ouvrage, Les Dons de Comus. Et même chose, il explique que c'est la base des sauces. C'est vraiment, il le dit en introduction, on parle du bouillon. Et 1833, le grand livre de cuisine française par Antonin Carême, eh bien, il tient des propos similaires en fait à ceux de Dumas. Il parle de l'osmazone aussi. Et il s'ouvre son grand traité, 5 volumes. Enfin, et par un traité des bouillons. Donc c'est vu comme la pierre angulaire en fait.
C'est ça, la pierre angulaire de la cuisine française. Et pourtant, le bouillon, on pourrait dire, est de toutes les conditions. Il peut être paysan, il peut être plutôt bourgeois, il a même sa réputation gastronomique. Et le bouillon, il est en même temps aussi de toutes les chapelles, parce qu'il peut être végétal, il peut être très carné ou très animal, il peut être évidemment marin, il peut être bien-être comme très gastronomique. Mais le bouillon, dans l'histoire de la gastronomie française, avait au départ plutôt une vocation plus médicinale que gastronomique.
La frontière est souvent dure à tracer en fait, mais il est clair qu'on a ces bouillons, on a tout un tas de recettes à partir du XVIe siècle, avec sous des noms différents, consommés par exemple, ce qui deviendra le consommé. On trouve des recettes dès le XVIe siècle avec cette idée de produits bénéfiques pour les malades, pour les gens âgés, etc. Et évidemment, c'est aussi le bouillon restaurant, et même le restaurant tout court. À partir du XVIe, XVIIe siècle, on parle d'un restaurant, un bouillon de viande qui restaure les forces, en fait. Et de là vient le mot restaurant, puisque c'était un peu, je dirais, le produit d'appel. Lorsque les restaurants naissent dans les années 1760, c'était un lieu où on venait pour consommer des restaurants, même si très très rapidement la carte s'est enrichie. Et on parlait plus de restaurateur. Le mot restaurant, lui, comme lieu, s'impose à partir des années 1820.
Mais le premier restaurant au lendemain de la Révolution française, ou la première génération de restaurants, c'était presque des maisons de santé qui servaient en quelque sorte ces bouillons. Et il y avait même des bouillons adaptés à des pathologies.
Tout à fait.
Selon qu'on avait des miasmes ou des rhumatismes.
Mais c'est-à-dire qu'en fait, dans ces traités diététiques, les bases de la diététique étaient très différentes. Il fallait rééquilibrer ce qu'on appelait les humeurs chez les individus. Et donc, en effet, la composition, les modes de cuisson influaient des produits chauds, humides, froids. Enfin, c'est assez complexe. Mm-hmm. C'est une autre diététique. Et lorsque celui à qui on attribue la création du restaurant Rose de Chantoiseau crée Le premier restaurant, sans doute en 1766.
Pas loin du quartier du Louvre. Hein,
juste à côté du Louvre, une rue qui n'existe plus.
La rue des Poulies.
On pense que c'est là le premier restaurant. Il appelle ça en effet lui une maison de santé, même si encore une fois très rapidement en fait la carte va s'enrichir. Mais c'est ça, je dirais que c'est le produit d'appel, le produit sur lequel, puisque c'est un homme de réclame, on va dire, il a basé sa réclame.
Justement. Donc on pourrait presque penser que, enfin, on a le droit de penser que le bouillon est à la base de cette grande invention française qui est le restaurant. Restaurant étant d'ailleurs l'un des mots français les plus diffusés dans le monde.
Tout à fait.
Restaurant en anglais, ce n'est ni plus ni moins que le mot français. Mm-mm. Très bien, bouillon, restaurant, et vous allez nous raconter tout à l'heure, Loïc d'ailleurs, la fabuleuse saga ensuite de ce qu'on appellera les bouillons, ces espèces de lieux de restauration, de brasseries populaires qu'on a trouvé beaucoup à Paris, et on va voir que cette saga est absolument passionnante. Il y en a une qui va restaurer nos forces et nos appétits justement dans le studio 521 de la Maison de la Radio, c'est Keda Black avec une première démonstration. On va vraiment partir de la base, un bouillon qui est peut-être bien le plus connu, le plus pratiqué, le plus consommé, sans jeu de mots. Dans les cuisines et en France, c'est le bouillon de volaille qu'on appelle autrement bouillon de poule.
Ou le bouillon de poule, oui. Alors pour faire un bon bouillon de poule, c'est sûr qu'il vaut mieux une poule. Une poule peut-être un peu vieille et un peu sèche, qui n'aurait pas de sens au four en rôti, parce que pas assez grasse.
Oui.
Et puis avec des aromates classiques, des légumes, carottes, poireaux, oignons, etc. Ensuite, on peut aussi, et moi ce que j'aime bien pratiquer, enfin le bouillon est aussi une cuisine assez opportuniste, puisqu'il s'agit de finalement d'utiliser ce qu'on a sous la main en fait. Et bon, on n'a pas forcément une poule, et donc j'aime bien utiliser la carcasse du poulet rôti.
C'est ça.
Qui semble toujours dommage de jeter, parce qu'on a l'impression que c'est encore, il y a quand même pas mal de petites choses qui s'accrochent dessus, un peu de jus.
Il reste aussi les os.
Et les os, bien sûr, qui
même s'il y a une école, alors il y a toujours ce débat, ah oui, mais le bouillon n'est jamais aussi bon quand on le fait à partir d'une carcasse de poulet rôti, parce que la carcasse et la viande qui s'y retrouve encore attachée, finalement, a déjà donné ses sucs dans ce plat du poulet rôti, a déjà perdu en quelque sorte sa saveur, et vous conseillez de faire moitié-moitié en utilisant une carcasse, mais en ajoutant un peu de poulet frais.
C'est ça, c'est un bon compromis. La carcasse seule a encore du goût, à condition d'y ajouter des aromates un peu forts, du type gingembre, ail, un peu de carotte pour le côté sucré, un peu de badiane. Je trouve que ça marche bien, mais oui, effectivement, un bon compromis consiste à ajouter à la carcasse du poulet rôti. On peut d'ailleurs en garder plusieurs de suite en les conservant au congélateur, et puis pour lancer ensuite un bouillon peut-être un peu plus important. Et c'est pas mal d'y ajouter par exemple des ailerons de poulet cru pour avoir ce goût du qui que donne le la viande fraîche de volaille, et puis les qualités nutritionnelles aussi qui viennent de cette viande fraîche.
Très bien, donc carcasse plus aileron, évidemment toutes les proportions sont sur la recette qui figure sur franceinter.fr à la page on va déguster. Des parts eau froide, ou quelle quantité d'eau par rapport à une ou deux carcasses de poulet rôti?
Alors en fait il n'y a pas de quantité d'eau, on met ça dans une casserole et on couvre, et puis on s'assure que l'eau, ça va s'évaporer, mais c'est bien que sauf à la fin ça recouvre, qu'il n'y ait pas trop d'ingrédients qui dépassent. Mieux vaut toujours utiliser une eau plutôt filtrée, type avec une carafe spéciale ou un morceau de charbon auparavant, comme toutes les préparations qui utilisent de l'eau. Et ensuite, oui, plutôt des parts eau froide et des parts doux, puisque si on y va trop fort, si on a de l'eau bouillante dès le départ, on va plutôt faire une cuisson, alors que là, on cherche plutôt à faire une extraction, à la fois une extraction, une décoction, une infusion, quelque chose de cet ordre-là, où il faut que une forme d'osmose, le mot d'osmazum peut-être est relié à ça, pour que l'osmose se produise et que l'eau puisse attirer tous les composants aromatiques des ingrédients qu'elle contient.
Il porte mal son nom finalement, le bouillon, parce que vous précisez que par rapport à l'eau, le feu, la puissance du feu, il s'agit d'avoir un petit frémissement, voire un léger bouillonnement, mais en aucun cas on fait un bouillon de volaille à gros bouillon justement.
Effectivement, il faut que ça roule doucement. Alexandre Dumas dit que la marmite doit simplement sourire.
C'est une belle expression. La marmite doit sourire, Alexandre Dumas. Hein.
une jolie image. Et puis c'est aussi comme ça qu'on va obtenir un bouillon plus clair, puisque les ingrédients vont pas être remués dans la casserole, moins mélangés. Voilà.
On y a ajouté nos aromates. Alors vous, c'est effectivement 10 gousses d'ail pour deux carcasses de poulet rôti. Hein. Il y a de la badiane, autrement appelée anis étoilée, évidemment. Un peu de gingembre bio. Là, on parle du gingembre racine frais, le rhizome, qui apporte de la fraîcheur, j'imagine.
C'est ça. Et puis un petit peu de piquant aussi.
Du poivre aussi.
On peut mettre du poivre, oui.
Mais là, c'est un peu comme on a envie. Après, il y a le temps de cuisson. Comment opère cette osmose, en combien de temps, s'agissant du bouillon de volaille? C'est quand même pas mal de temps.
Oui, effectivement, ça dépend des ingrédients. Pour la volaille, il faut bien compter 3 heures, 4 heures. Il n'y a pas de temps précis, il faut lancer. Et sachant que ça demande pas une surveillance extrême, et on peut tout à fait faire d'autres choses pendant ce temps-là.
Ma réalisatrice, Laurent Thomas, est en train de me gronder au casque. Mais t'as pas demandé si c'est cuisson à couvert ou à découvert? Moi, j'ai ma petite idée, mais je vous laisse répondre.
À découvert, pour le coup, puisqu'on cherche aussi une forme de concentration qui va donc se faire assez lentement.
Donc, réduction aussi.
Une réduction et une concentration des saveurs. L'eau va s'évaporer, effectivement, pour laisser un liquide plus dense et concentré et coloré aussi.
Est-il besoin de salé?
Alors, moi, je recommande de saler peu ou ne pas saler du tout, justement à cause de cette concentration, puisque ça, si on sale trop et que ça se concentre, ça risque d'être trop salé à la fin. Mmh. Et on peut toujours saler après coup. Voilà, ça dépend. Si on utilise des ingrédients qu'on va ensuite manger, on peut avoir envie d'avoir un petit peu de sel pour que, par exemple, les carottes aient quand même le petit goût salé. Mais
c'est ça. En parlant de carottes, c'est bien d'en mettre quelques-unes pour le côté un peu sucré,
oui,
justement,
aussi,
dans ce bouillon.
Oui, oui.
On peut mettre une branche de céleri.
C'est ça. Bien sûr. Bah, de toute façon, sur les aromates, il n'y a pas de règles. Il faut aussi se laisser aller à ce qu'on a sous la main et ce qu'on aime et faire sa propre composition.
Beaucoup de questions de nos auditeurs sur des étapes un peu liées au bouillon qui sont ce qu'on appelle la clarification et la filtration du bouillon. S'agissant encore une fois de ce bouillon de volaille, on filtre, on clarifie?
Alors c'est toujours bien de filtrer. En fait, si on procède comme ça lentement, le bouillon a plus de chances d'être clair parce qu'il ne sera pas remué. Mais à la fin, il faudrait quand même le filtrer. Moi, j'aime bien utiliser une passoire, à la limite doublée d'une étamine ou même simplement de grandes compresses de gaz qu'on trouve à la pharmacie pour avoir quelque chose de plus clair. Dans ces cas-là, normalement, la clarification, qui est un procédé un peu plus complexe où on utilise des protéines fraîches et des aromates qui vont coaguler toutes les impuretés qui restent dans le bouillon, à la maison, franchement, c'est pas nécessaire. Sachant que cette question des impuretés dont on parle toujours, bon, c'est pas, y a rien de sale. Vous pourriez, si vous mettiez votre poulet au four, vous ne le laveriez pas auparavant, donc vous mangeriez toutes ces fameuses impuretés. Donc c'est...
Et si on a un bouillon trouble, on ne panique pas.
C'est ça. Et donc ça ne peut à la limite qu'ajouter du goût. Et certes, on peut souhaiter pour certaines préparations un bouillon très clair, très propre en goût et très 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 pur en texture. Mais voilà, c'est pas limpide, ce n'est pas grave.
Bonne nouvelle sur le plateau dont on va déguster, il y a un petit bouillon en préparation qu'on va goûter. Vous allez pouvoir commencer à vous mettre à la préparation, car l'un des grands charmes et des grands atouts de votre livre, Bouillon gourmand, des recettes de base au plat complet, concoctez-vous des dîner chaud bouillon aux éditions Marabout et de Black, c'est qu'il y a évidemment la technique du bouillon de base, mais à chaque fois il est transformable en un plat complet. Et vous allez nous le montrer avec une tradition grecque résolument méconnue, et c'est bien dommage, qu'on aime beaucoup. Vous allez nous proposer un bouillon de volaille à la grecque nommé...
Qui s'appelle Avgolemono.
Avgolemono.
Avgo l'œuf et Lemono le citron. C'est une recette qui serait d'origine juive séfarade, qu'on trouve à d'autres, dans d'autres endroits du bassin méditerranéen, qui peut être préparée aussi avec du verjus, du jus de grenade. Même
c'est
si
le principe là, d'avoir, cette... d'avoir la liaison du jaune d'œuf,
c'est ça,
doublé d'une acidité.
C'est ça. Donc j'aime bien cette recette parce qu'elle montre la manière dont on peut, à partir d'un bouillon de volaille simple, le rendre, en modifier la texture, le rendre plus nourrissant, modifier son goût et obtenir quelque chose qui s'apparente presque, qui pourrait, en format très réduit, être presque une sauce en fait, qui peut aussi être une sauce.
Donc qui gagne un peu en consistance, et ben écoutez, allons-y quoi. Moi je veux le même résultat que la jolie photo de David Jappy. Page 65 du bouquin, ça fait envie ça. Non mais franchement, on a envie de lamper ce...
Non, ça c'est Sabrina, notre formidable styliste, qui fait en sorte que ça soit...
Je pensais que c'était votre
si
cuisine
jolie,
naturelle.
Bah, c'est un travail commun, collectif.
Alors comment on s'y prend?
Donc pour cette recette, donc, on a un bouillon de volaille qui peut être un bouillon de poule classique ou un bouillon de carcasse, ou les deux, enfin ce dont on a parlé. Ça peut aussi, si on ne veut pas avoir de viande, être un simple bouillon de légumes, ça marche aussi très
important
bien, il n'y a aucun problème.
Pour nos amis végétaliens.
Voilà, et ça consiste à commencer, là je sais pas si vous entendez,
à fouetter
ensemble des œufs. Donc on compte à peu près, pour, si je ne me trompe pas, pour 30 ml de jus de citron, deux œufs qu'on fouette ensemble dans un petit bol.
On n'est pas que sur les jaunes, hein, on est sur l'œuf entier,
ouais. Et ensuite, qu'on dilue, on verse un petit peu de bouillon qui doit être
saisi sa casserole de bouillon.
Frémissant. Donc simplement.
Là, vous travaillez dans un saladier avec un fouet, hein.
Voilà, donc on verse un petit peu de bouillon frémissant qui ne doit pas être bouillant et qui va diluer, qui va permettre cette dilution. Et cette petite préparation, on la reverse dans la casserole. Voilà, donc là j'ai remis la casserole sur le feu.
Le citron est déjà présent dans les œufs ?
On commence par fouetter les œufs et le citron, et ensuite on dilue ça avec le bouillon frémissant, on remet dans la casserole. Là, on refouette un petit peu l'ensemble et on laisse épaissir à feu. Il faut que ça soit doux parce que...
Sinon, ça fait une omelette.
C'est un peu ça.
Et on continue à fouetter. Vous allez nous préparer, nous servir, voilà. Surtout parce qu'on veut le goûter. Et on fait justement une petite pause. Une petite pause bachique. On va rester dans l'univers liquide, vous l'avez bien compris. Mais on va passer de l'assiette creuse au verre avec notre chroniqueur Antoine Gerbel.
On va déguster sur France Inter.
Pas tellement dépaysé par le sujet, Antoine, hein, ça vous va? On va même tenter l'accord, les œufs, le citron.
Vous ne me gâtez pas quand même.
Oui, c'est vrai, c'est pas facile.
Déjà, vous pouvez chercher la littérature autour de accord, vin et bouillon. Ben voilà, votre journée, elle est remplie. Il n'y a rien à trouver. Quasiment rien. Non, mais l'accord n'est pas naturel, déjà d'un point de vue physique, parce que vous accordez du liquide avec du liquide au départ. Après, il y a aussi ce problème de température. Un bon bouillon, on l'aime chaud. Hein. On fait même du bruit dans certains pays avec la bouche, quand on boit son bouillon. Et donc, cette chaleur par rapport à un vin qu'on sert généralement frais, c'est un petit peu compliqué. Alors, on va déjà écarter ce qui marche vraiment pas du tout. C'est malheureusement les bouillons constitués exclusivement de légumes. Parce qu'il y a souvent un peu d'âpreté, un peu de verdeur. Alors, moi, je vous conseille quelque chose avec le bouillon de légumes, c'est l'eau. Voilà, c'est parfait, c'est idéal, vous continuez dans ce côté détox et ça fonctionne très très bien. Après il y a plein d'accords, on peut s'amuser et j'avoue que c'est un peu l'espace un peu asiatique qui a ouvert un peu les chakras des sommeliers autour des accords mets et vins, parce que dès que vous mettez bien évidemment de la viande, du poisson, qui a un aspect carné dans le bouillon, tout de suite on pense à des accords classiques qu'on connaît. Les vins rouges légers, on évoquait les restaurants bouillons, c'était des lieux où on buvait des petits rouges, bien évidemment le Beaujolais, le Gamay coulé à flot, c'est très léger, ça n'a pas de tanin. Donc voilà, on peut surtout le bouillon qui est souvent en France est issu ce bouillon du bœuf, hein, qui était quand même la base des entrées. Et après, on arrive dans une autre dimension, c'est qu'on ajoute des vermicelles et des morceaux de viande. Alors là, on est Alors là, c'est un terrain de jeu beaucoup plus intéressant. Par exemple, l'univers oxydatif. On n'imagine pas, mais si vous servez un type vin jaune du Jura sur un bouillon, mais alors là, il faut qu'il soit très corsé en viande, avec ce côté de vin sec, et ben ça va très très bien fonctionner. Et les inspirations asiatiques, moi j'aime beaucoup dès qu'il y a du gingembre et de la citronnelle, par exemple, parce que là on a sur un territoire de blanc aromatique.
Il y a du gingembre dans le bouillon grec que nous est en train de nous servir Kedah.
Oui, justement. Je pense que là, on arrive sur vraiment quelque chose d'intéressant. Alors moi, j'ai un fils à la maison qui cuisine énormément. Il est jeune, il a une inspiration mondialiste. Il fait beaucoup de bouillons. Alors moi, je me suis amusé. J'ai testé plein de choses. Mais le vin que vous avez dans votre verre. Mm-hmm. Alors je l'ai trouvé un peu par hasard, il y a très peu de temps, en prenant un verre dans un nouveau lieu qui s'appelle Augustin Marchand de Vin. On est à Paris, oui. Dans le 6e arrondissement.
Très chouette adresse.
Voilà, Augustin Marchand de Vin. C'est un personnage, je vais pas dire le nom du propriétaire, mais c'est quelqu'un qui est vraiment une grande culture de vin gastronomie. Et Augustin, il nous servit plusieurs vins. J'étais avec des amis, puis à l'aveugle, bien évidemment, parce qu'on s'amuse toujours autour du vin. Et là, il me sert ce vin. Je dis, ah, ça, c'est du Chenin. On est dans le Jura. Pardon, on est dans la Loire. Ah non, mais je dis, mais non, c'est du Savagnin, on est dans le Jura.
Ah oui, c'est vrai.
Puis je voyais le sourire, vous savez, le gars très sympa qui a sa bouteille cachée dans les mains, qui sourit comme ça. Je me plantais complètement, puisque j'étais en train de déguster, pour la première fois, je ne connaissais pas le vin de Théodore Planas-Raston. Alors, Théodore Planas-Raston, c'est une jolie histoire. Il a 37 ans, il fait du vin depuis 12 ans à Méreuil. Alors, Méreuil, je ne sais pas si vous voyez, c'est à côté de... d'Aix-en-Provence.
C'est ça, on est en pleine Provence.
En pleine Provence, et Méreuil, c'est un des trois villages où on fait cette appellation, toute petite appellation, mais qu'on connaît dès qu'on s'intéresse au vin, c'est Palette.
Oui,
vous savez, on tombe tout de suite dans dès qu'on est dans une encyclopédie du vin, c'est spécialité française, c'est toute petite, c'est 45 hectares Palette, c'est tout petit, c'est très très ancienne appellation, puisque je crois que c'est dès en 48 ou en 45, ils ont eu l'appellation, donc c'est aussi ancien que dans la reconnaissance des appellations que Châteauneuf du Pape. Il y a des grands châteaux, vous les avez cités, Simone, Crémade, Henri Bonneau. C'est tout petit. Et alors l'histoire de Théodore, c'est que une branche de sa famille est provençale. Il récupère des friches, voilà, qui sont abandonnées par un vieil oncle. Et il est des friches. Et puis naïvement, il dit je vais demander des droits de plantation. Puis je regarde vraiment les cépages. Il y a énormément de cépages en Provence, c'est très intéressant. Il regarde le cahier des charges des cépages provençaux. Il plante tout ce qu'il faut. Il a des droits de plantation, mais il fait ça un petit peu, on va dire, sans prévenir les voisins, dans le sens où il est totalement libre de faire ce qu'il veut. Mais en Provence, on n'est pas tout à fait libre de faire ce qu'on veut. On est un petit peu coincé dans une histoire et il a beaucoup d'ennuis. Je vais pas développer, mais on lui met vraiment des bâtons dans les roues, plus concrètement des coups de fusil même au-dessus de sa tête, on sifflait.
Ah oui.
Alors, c'est pas très drôle. Alors parce que voilà, c'est cette Provence qui est un peu chasse gardée au propre par les chasseurs, mais aussi par une sorte de malveillance des producteurs qui nous voient d'un très mauvais œil des jeunes s'installer parce que ces vignes qu'ils sont en train de restaurer, ils les verraient bien pour eux. Ah. Et donc cette jalousie. Et là, c'est simplement pour raconter. Ça arrivait à Théodore, mais on m'a souvent aussi raconté ça dans d'autres espaces viticoles où voilà, on n'accueille pas si facilement. C'est pas un long fleuve tranquille de s'installer vigneron. Voilà. Alors, il a pas pu construire sa cave puisqu'on lui a interdit de construire sa cave sur l'aire d'appellation, ce qui l'empêche d'utiliser le nom de Palette. Donc c'est pour ça que sur l'étiquette c'est un vin de France. Mais le garçon, il a plein de ressources. Il savait que sa vie allait être compliquée. Et à la même époque, il se lance pour une autre passion. Ce sont les céréales. Il est céréal, donc également, il fait des céréales anciennes, il fait du pain qu'on peut trouver sur les marchés, de très bons marchés bio autour d'Aix, et il fait, à partir de 2 hectares, ce blanc et ce rouge.
Le vin, il manque le fromage, bientôt.
Alors, il manque le fromage, mais il est déjà très très occupé, parce que son pain, il l'avoue, c'est son pain qui marche très très bien, il a employé 5 employés qui sont avec lui en ce moment, donc c'est une belle réussite, et son vin, il le bichonne, moi je l'ai trouvé vraiment, il y a 4000 bouteilles, donc vous voyez, on n'est pas dans une très grosse production, mais les cépages, c'est de la clairette, c'est du grenache blanc, du bourboulin, et j'ai découvert la panse muscade. Alors, la panse muscade, en fin de compte, c'est du muscat d'Alexandrie qui porte ce nom-là à Palette. Alors, le nez, vous avez vu ce nez incroyable, ouais. Ce côté noisette grillée, côté
sésame.
Finement sésame torréfié qui rappelle des grands Meursault, je ne citerai personne, ou des grands vins d'Anjou. Ça m'a vraiment bluffé. J'ai goûté, ça c'est un 2016, donc ça veut dire que c'est un vin qui en plus évolue très bien.
C'est bon.
Mais ça on le sait parce que les blancs de Palette, moi j'en ai bu des vins qui avaient 30 ou 40 ans, donc ça il ne démontre rien. Mais il a son style, c'est sans souffle. soufre. Voilà, je le précise parce que voilà, il faut expliquer qu'un vin sans soufre, un 2016, ça peut tenir très très bien. Il y a un 2018 qui est en ce moment sur le marché, qui est magnifique. Voilà, je tenais vraiment à mettre en avant ce vigneron parce que voilà, avec nos bouillons, je pense qu'il devrait faire recette.
Et c'est vrai qu'il y a une acidité très appétante qui est pas forcément la signature de la Provence, mais en tous les cas, c'est un vin vraiment vibrant, génial. Vin blanc de Théodore Planas Rastoin, qui se qualifie sur son étiquette de paysan, boulanger, vigneron. Bravo à son travail et bravo à lui et bon courage pour ces petites bisbilles de voisinage. Merci
très
beaucoup.
Très pagnolesque.
Ouais, c'est ça. Ouais, voire. Enfin, bon, j'ai rien dit. En tout cas, merci beaucoup pour ce coup de cœur. Les prix, c'est accessible.
Alors, on commence de 17 et puis le 2016 qui est plus ancien, il a 30 et quelques euros.
Voilà. D'accord. Merci beaucoup, Antoine Gerbel. Et ce vin blanc accompagne la dégustation de ce bouillon à la grecque signé Keda Black. Quelle révélation. Non, vous aimez ou pas? Ça,
c'est délicieux.
Ça déguste autour du plateau. Loïc bien assis.
Oui, avec une sorte de douceur, d'onctuosité et puis cette pointe acide. Non, c'est tout en subtilité.
Et puis il y a du. Alors c'est l'inverse de ce qu'on pourrait imaginer d'un bouillon un peu fade. Enfin, je veux dire, il y a plein de choses à manger dedans aussi. Il y a du chou-fleur et puis c'est des blettes ou c'est des.
Alors c'est des épinards, mais on met ce qu'on veut. Il y a aussi des petites pâtes type orzo.
Oui.
J'en ai pas eu. C'est assez
traditionnel. Un peu langoiseau.
C'est ça.
Ouais, vous n'en avez pas mis assez. J'en ai pas eu assez.
Votre servi.
Mais c'est génial ce bouillon. Il y a le truc. Il y a la caresse de l'œuf onctueux et il y a la petite claque du citron. Voilà, c'est un petit plat un peu SM.
C'est le principe.
J'ai une auditrice qui me dit que sa mère lui fait chaque année pour Kippour ce bouillon.
Et ben voilà, il a des origines juives séfarades. Il y a aussi des versions comme ça, jeune d'œuf, enfin œuf et citron en Italie beaucoup aussi. Hein.
Oui.
En tout cas, c'est vraiment
avec le Bordeaux,
une recette géniale qui est saine, qui peut avoir sa version totalement végétale. Franchement,
si on prend
bravo.
Un bouillon de légumes ou de pluche de légumes.
C'est une vraie belle réussite. Et ben, on va continuer à parler bouillon évidemment dans un instant. Mais pour l'heure, on prend la route de Benjamin Biolay avec le titre Ma route, extrait de son dernier album Grand Prix. Belle journée sur France Inter.
J'ai parcouru le monde, j'ai traversé la France de fond en comble, chaque station essence. J'ai traversé la vie comme une ambulance, jamais trop en retard, jamais trop en avance. J'ai parcouru le globe sans la moindre carte, dans la cour de l'école, j'ai lâché quelques tartes. À présent c'est l'automne et plus rien ne m'étonne, elle ne m'a pas mené seulement jusqu'à Rome. Ma route. Passer les frontières, style derviche, tourneur, contrebandier naguère, demande à ta sœur. J'ai passé le checkpoint, tel un épouvantail, en frappant à ta porte, je montais sur les détails. J'ai traversé l'Europe jusqu'à plus jamais soif, enfant de mon époque, sans passion et sans taf. À présent c'est l'hiver, et plus rien ne m'étonne, ni pleurer des rivières, ni les débris de carbone. Je roule. Je voulais te paraître le meilleur du monde. Je regardais la mer comme un vieillard mourant, mais je levais mon verre à tous les éléments, le nez planté au ciel et même au firmament. Mais la route m'appelle, je suis son vieil amant. Je roule.
Ça bouillonne sur France Inter. Nous sommes avec Kéda Black, auteur de Bouillon Gourmand chez Marabout, et notre historien Loïc Bienassi. On est en direct aussi avec notre chroniqueuse Zazie Tavitian et notre chroniqueur vin Antoine Gerbel.
France Inter. François-Régis Gaudry. On va déguster.
Le bouillon julien, comme les autres authentiques bouillons parisiens, est à la fois un restaurant, une cantine et une invitation à remonter le temps.
On s'imagine les belles de l'époque qui défilaient ici. On ne sait pas si elles avaient la même carte que nous.
Je ne connaissais pas du tout et le décor est vraiment très beau.
Bouillon Julien, Bouillon Chartier, il existe encore quelques rares restaurants parisiens qui portent sur leur enseigne le nom de Bouillon. Loïc Bienassi, voilà une énigme qu'on va tenter de résoudre avec vous.
Ah oui, ce sont, j'allais dire, des vestiges en fait. C'est-à-dire que ces bouillons, alors aujourd'hui notamment vraiment le Bouillon Chartier, peut-être celui qui est le plus connu, mais ça remonte au milieu du 19e siècle et le vrai, j'allais dire, père fondateur, ce sont les Bouillons Duval, avec un certain Baptiste Adolphe Duval, qui était boucher, et qui, précisément, utilisant ses viandes, en 1854, ouvre un premier bouillon dont on ne sait pas grand-chose, rue de la Monnaie, et surtout, il en ouvre un deuxième, deux années plus tard, 1856, dans une salle immense, donc c'était un vrai pari, hein. De toute façon, c'est une vraie aventure industrielle, 1856, rue Montesquieu, près du Palais Royal, et sur 800 mètres carrés, deux niveaux, enfin quelque chose de considérable. Et là, c'est un vrai succès, un énorme succès. Il a 16 établissements en 1878. Enfin, il est mort à cette date.
Ah oui, donc les bouillons ont fait des petits.
Ah oui, non mais il est mort à cette date. D'ailleurs, c'est sa femme qui ensuite a fait tourner l'entreprise. Et non seulement lui, enfin cette entreprise a eu du succès, mais en plus, à 1878, si on regarde un annuaire, il y a 200 bouillons dans Paris à cette date.
Incroyable.
Donc tout le monde, face à ce succès-là, a ouvert son bouillon. Mais c'est vrai que c'est le bouillon Duval, précisément, qui a posé les bases de ça, avec alors le bouillon, un peu comme ce que je disais tout à l'heure sur le restaurant, c'est un peu le produit d'appel. En réalité, la carte s'est diversifiée assez vite, et ce qui frappait les esprits, c'est surtout l'aspect moderne de ce lieu. On parlait souvent de ces tables de marbre, la propreté. Et le vrai symbole de cette modernité, c'est un système qui a été mis en place parce que le lieu était immense, rue Montesquieu, de fiches. On rentrait avec une fiche, on se voyait remettre une fiche à l'entrée, pardon. On s'asseyait à sa table, on cochait sur la fiche, donc une sorte de menu type, ce qu'on souhaitait consommer. Et puis à la sortie, on présentait la fiche au guichet, on réglait, on tamponnait la fiche qu'on remettait au portier.
Il a presque inventé le fast-food.
Il y a cette dimension-là. C'est un lieu de la modernité alimentaire, ça c'est sûr. De la France qui s'industrialise, il y a de ça de toute façon. Et on estime qu'en année normale, dans les années 1870, les bouillons Duval servaient 3 millions de repas.
Incroyable.
Donc c'était vraiment un lieu que tout le monde connaissait, notamment.
Et c'était un lieu assez populaire, qui avait la réputation de nourrir le petit peuple des Halles.
Alors c'est vrai, précisément, le bouillon, produit populaire, accessible, et c'est en effet peu cher. Seulement je disais qu'il y avait cette carte à tamponner, mais très rapidement, parce que le lieu est beau, le lieu est moderne, le lieu est efficace, la bourgeoisie s'y intéresse, et à côté de cette carte, à minima, une douzaine de mets proposés, il commence à y avoir un menu du jour. Ce qui fait que le bouillon Duval s'embourgeoise, tous les témoignages concordent. Et d'autres bouillons, par exemple les bouillons Chartier qui eux apparaissent, alors je connais mal l'histoire du début, on va dire toute fin des années 1890, par exemple, début 20e siècle, c'est plutôt eux qu'on le vend en poupe, et on leur reconnaît d'être moins chers que les bouillons Duval. Donc il y a une sorte d'embourgeoisement des bouillons Duval, et les bouillons Chartier sont un peu les bouillons les plus dynamiques du début du XXe siècle.
Et les seuls qui ont finalement survécu, enfin, il y a le fameux bouillon Chartier à côté des grands boulevards dans le 9e arrondissement de Paris, mais il est vrai qu'on ne trouve plus un seul bouillon Duval, en fait. Il y en a eu jusqu'à 200, vous dites
Non. De toute enseigne. En fait, l'âge d'or c'est des bouillons Duval, c'est vraiment la toute fin XIXe siècle, et après, quand le fils prend la relève, Alexandre Duval, lui, c'est un mondain. Hein, il est connu pour tout un tas de frasques, pour son un chapeau d'un type particulier, une sorte de haute forme coupée à mi-hauteur. C'est donc lui, les bouillons, ça l'intéresse un peu moins, même si on dit que sur sa carte de visite figurait beaucoup de bris pour rien. Donc il,
beaucoup de
bris pour rien.
On parle du fromage.
Du fromage.
D'accord, beaucoup de bris pour rien.
Je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas,
la devise des bouillons du Val.
Il cultivait un peu cette image-là, mais en réalité, ça l'intéresse assez peu de faire fructifier l'entreprise familiale. Et elle va péricliter dès l'entre-deux-guerres. J'allais dire, c'était plus ce que c'était.
Et précisons que la tradition des bouillons, ces brasseries populaires où on est censé manger à petit prix, est repartie il y a quelques années à Paris, avec notamment deux établissements qui font un travail assez impressionnant dans le rapport qualité-prix et dans la qualité de ce qui est servi, dans la quantité aussi des plats proposés et des menus servis chaque jour. Il y a le bouillon Pigalle et plus récemment le bouillon République. Je n'y suis pas encore allé, mais il paraît que ça vaut la peine d'aller y faire un tour.
Ça concorde avec cette mode du l'œuf mayonnaise aussi qu'on retrouve comme produit leader dans les bouillons.
Voilà, on est un peu loin effectivement du bouillon. Il y a aussi beaucoup de nourriture solide et le bouillon, et ben on va le prendre aussi avec Zazie, mais en version nippone.
On va déguster. Sur France Inter.
Zazie, vous vouliez nous parler d'un bouillon qui vient de loin, voire de très loin.
Oui, François-Régis, j'aimerais vous parler du miso japonais. Alors je dis miso et pas miso, car c'est comme ça qu'on le prononce au Japon. Je trouve que c'est un bouillon qui gagne à être mieux connu.
C'est vrai que parfois en France, il est légèrement caricaturé sous la forme de ce bouillon fade, un peu flotteux, qu'on trouve notamment beaucoup dans les restaurants à sushi.
Oui, d'ailleurs c'est un bouillon qui peut être réconfortant, mais ça devient vraiment très bon, incroyable. Autre chose, en tout cas, quand on utilise du bon miso. Ça, je l'ai découvert grâce à Takayoshi Hirai. Lui, il fabrique du miso sous la marque Sanga, à Vénier, près de Tours. Ce japonais originaire de Kobe est installé en France depuis près de 20 ans. Alors, il était d'abord professeur de mathématiques, avant de décider de faire son miso et son koji, tout simplement car il n'en trouvait pas des bons en France.
Zazie, vous nous parlez miso, koji. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça se passe pour les fabriquer ?
Oui, alors je vais essayer de vous expliquer ça clairement. Alors à la base de la soupe miso, il y a donc le miso qui est ce condiment, cette pâte fermentée, donc un ingrédient millénaire au Japon. Et pour fabriquer du miso, il faut d'abord faire son koji. Donc ce sont des céréales, généralement du riz ou de l'orge, que l'on fait cuire à la vapeur et auxquelles on ajoute ensuite un petit champignon, l'aspergillus oryzae. Et puis on va laisser ça fermenter 4 jours à 40 degrés. Une fois que son koji est prêt, on lave, on trempe, on cuit et on broie les graines que l'on va utiliser pour le miso. Ça peut être du soja comme celui que je vais vous faire goûter, mais aussi d'autres légumineuses ou d'autres céréales comme du riz, de l'orge, des pois chiches. On incorpore ensuite ces graines avec le koji, le sel et l'eau et on va placer ce mélange dans des grandes cuves pour une deuxième fermentation qui, elle, peut durer une dizaine de jours, voire plusieurs années.
Car le miso, et pas miso, hein, on a bien compris qu'on prononçait miso,
très bien,
est vraiment un produit vivant.
Oui, alors chez Sanga, il n'est pas pasteurisé, ce qui est assez rare en fait, et qui fait qu'il continue à évoluer au fil du temps, il change de couleur aussi, on pourrait penser un peu au vin d'ailleurs, et d'ailleurs vous en avez juste devant vous là, si vous voulez le
petit
goûter.
Échantillon.
Ouais, je vous ai ramené ce miso rouge à base de soja, donc il est fermenté 20 mois, il est aussi bio comme tous les miso Sanga. Et juste quand vous goûtez, là, vous avez goûté la pâte juste comme ça. Je trouve que ça a vraiment un goût pas forcément si salé. On sent aussi un peu le sucre qui vient du koji. On sent le goût assez rond.
Presque un peu caramélisé aussi, des notes de café.
Ouais, c'est assez profond. Moi, franchement, quand j'en mange comme ça, je me dis que je pourrais en manger en tartine pour mon petit déjeuner.
On est d'accord. En plus, ce serait bon pour la santé. Et comment ça se déguste justement ce miso au Japon ?
Alors, on
miso.
Sort ce miso. Ouais. le test. Alors, on sort de cette pâte assez couramment pour saler et assaisonner les plats. Mm-hmm. On peut s'en servir sur des légumes, par exemple des aubergines au miso, c'est délicieux. Mais surtout, on déguste la fameuse soupe miso, qui est vraiment un plat que l'on retrouve sur les tables de toutes les familles japonaises. Et ça, c'est ce que m'a raconté Sugio Yamaguchi, qui est chef japonais installé à Paris et que j'ai interviewé.
En fait, au Japon, c'est quelque chose qu'on mange presque tous les jours. Ça peut être le matin, midi et soir. Mais je pense que c'est vraiment pour le confort. Quand on mange du riz, on veut une soupe. Et c'est cette soupe qui est la soupe miso au Japon. C'est un sujet qui est peut-être un peu comme le beurre salé ou doux d'ici. Il y a chacun son truc. Donc ma mère elle faisait la soupe rouge, mais mon père, je crois qu'il aimait le miso blanc. Et du coup, ouais, des fois, ils se disputaient. Après, à la base, c'est la même chose. On prend le dashi, un peu d'eau, et on met la garniture qu'on veut. Aujourd'hui, c'est le tofu. Mais après, ça peut être des légumes, ça peut être morceau de viande, ça peut être un peu de shoot de poisson. Comme on mange ça tout le temps, quand même, je pense que ouais, les mamans, elles n'ont pas du tout envie de manger la même chose tout le temps. Ils essaient de changer.
Alors comme le dit Sugyo, chaque personne a son miso préféré. Il y en a aussi des différents en fonction des régions. Au centre du Japon, on déguste le plus souvent le shiromiso, ou miso blanc à base de riz blanc et peu fermenté. Plus on s'éloigne du centre, plus les miso sont foncés, comme le mugi miso à base d'orge, que l'on consomme plutôt dans les campagnes. Hirai Takayoshi, chez Sanga, il fabrique aussi du miso de pois chiche ou de lentilles, et c'est vraiment super intéressant à déguster. Alors avec Sugyo, on a préparé une soupe à base de miso rouge, donc de soja, celle que vous avez goûtée, François Régis.
Que je suis en train de
déguster. Il m'a expliqué la recette de cette soupe.
C'est trois ingrédients, donc le dashi, miso et la garniture. Aujourd'hui, on va faire ce qui est un peu plus traditionnel, que j'ai préparé l'eau de kombu, que j'ai infusée dans l'eau froide et les feuilles de kombu depuis hier soir.
Et le kombu, c'est une algue
C'est une algue qui pousse dans la mer. Ça permet de récupérer le umami qui est dans le kombu dans l'eau. Par contre, là, j'en ai eu beaucoup, donc ça, c'est assez riche. On va saler légèrement le bouillon. Par contre, le miso, il ne faut pas cuire. C'est important. Ce qu'il ne faut pas, c'est de faire bouillir. On prépare notre bouillon avant, on fait bouillir, on goûte, on coupe le feu et on ajoute le miso. Parce que le miso, c'est vivant. Il y a un peu de poésie dans cette soupe. C'est ça que j'aime beaucoup.
Alors moi, je trouve que la soupe miso, c'est vraiment cette idée du bouillon qui fait du bien au corps. Sugyo, il dit d'ailleurs, en la dégustant, il m'a dit, c'est pas forcément l'esprit qui aime cette soupe, mais c'est le corps. Et je trouve que c'est assez...
C'est exactement ça.
Quand on la
et
boit.
Surtout quand on déguste ce bouillon que vous nous avez rapporté avec des petits cubes de tofu bien fondant en bouche, c'est vraiment exquis, très profond.
Oui, alors, si vous voulez acheter ce miso, c'est sur sangamiso.fr, il y a toutes les infos. Ils sont aussi sur le marché de Tours. Ils proposent aussi des cours de miso pour le fabriquer à la maison, des kits pour fabriquer son miso chez soi. Toutes les infos sont sur leur site.
Car on peut même faire du miso à la maison. Oui. Et sinon, on peut acheter ces misos Sanga, excellents, naturels, non pasteurisés, bon, des misos vivants et biologiques. Hein.
Oui, biologiques aussi.
Ça, c'est intéressant. Toutes les infos sur franceinter.fr à la page On va déguster. Merci beaucoup Zazie. Transition toute faite vers une recette et ce sera la fin de notre ami Keda Black qui nous propose alors pour employer un mot japonais, un bouillon très umami, même si maintenant on prononce cet adjectif à longueur de phrase, mais vraiment un bouillon qui peut être rapidement fait.
Oui, et qui doit
et qui propose une vraie sapidité.
C'est ça, et qui doit cette qualité aux champignons, qui sont un ingrédient extraordinaire en général, et surtout pour les bouillons, puisque ils permettent de donner très rapidement cette saveur qui est, je pense, dans les bouillons, ce qu'on cherche en fait, d'avoir cette base très très sapide.
Presque une saveur de viande en réalité.
C'est ça.
Sauf que on a besoin.
C'est
le temps de préparation est très rapide.
Et qu'on a besoin de 30 minutes, de l'ordre de 30 minutes, avec des champignons qui peuvent même être séchés, qui peuvent être des champignons de Paris ordinaire ou une variété des shiitake ou quand c'est la saison d'autres types de champignons qu'on peut faire suer un tout petit peu dans un peu de matière grasse, voilà, pour les aider un peu à exalter leur goût. Et puis voilà, avec de l'eau, quelques aromates, le piment fonctionne bien ici.
Combien de temps la cuisson d'un bouillon de champignons bien réussi?
C'est 30 minutes suffisent.
Ouais.
Et on peut même, c'est ce que j'ai fait, on peut même les passer plusieurs fois, les égoutter et puis recommencer, remettre de l'eau et repartir pour 20 minutes, 30 minutes pour avoir une quantité plus importante.
Et une cuillère de miso?
Et une cuillère de miso, c'est possible à la fin, donc comme le disait Zazie, sans cuisson, pour assaisonner, donc pas de sel au début. Et puis ensuite, on met ce qu'on veut, du tofu, du poulet, des herbes fraîches, des cébettes.
Mais on peut rester végétal,
et
c'est ça qui est intéressant.
On peut tout à fait rester 100% végétal.
Et on va goûter d'ailleurs, là, on va se quitter en goûtant ce bouillon champignon miso. Et juste une petite question, parce que beaucoup d'auditeurs nous la posent. Les bouillons préparés, tout préparés, soit en poudre, soit en cube, que faut-il en penser? Comment on les choisit? Vraiment en un mot?
Alors, les bouillons ariake sont très bons, coûtent un peu cher, mais sont un substitut très intéressant. Et sinon, je préfère les bio qui ont moins d'exhausteurs artificiels, etc. On maîtrise un petit peu plus le sel.
Parfait. Merci beaucoup, Keda Black.
Merci.
La semaine prochaine, portrait gourmand d'un géant de notre littérature, François Rabelais. Et d'ailleurs, cette émission sera enregistrée en public depuis les Rencontres de l'Histoire à Blois, ce jeudi 7 octobre, bibliothèque Abbé Grégoire, si vous voulez venir, jeudi à 16h30, selon les places disponibles, à dimanche prochain. Si vous avez encore faim,